de campagne. Bonjour, les carnets en Charente-Maritime. Avant de vous donner le menu, un mot sur la bataille menée par la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française pour la sauvegarde de ce savoir-faire traditionnel contre l'industrialisation du pain. Ne riez pas, la chose est très sérieuse. Elle est même porteuse d'une campagne de recrutement inédite de vendeurs et de vendeuses. La Confédération vient d'ailleurs de porter la baguette candidate à l'inscription au patrimoine culturel immatériel auprès de l'UNESCO. Donc la Confédération vient de réaliser un film promo du métier de vendeur-vendeuse afin d'interpeller le public sur les besoins actuels. On cherche 6 à 7 000 vendeurs-vendeuses. Il y a un lien pour découvrir cette campagne à nos pages émissions. Il y aura fallu 6 années pour défendre son dossier, mais comme la patience est toujours payante, Pascal Duc offre depuis la saison dernière une découverte du patrimoine le long de la Charente à bord d'un bateau de croisière propulsé au solaire. Pascal nous attend au bout du fil. Xavier San Miguel est un des grands ordonnateurs, sinon le grand et l'unique ordonnateur de jour de jazz à Foura, soit une presqu'île totalement tournée vers un jazz très festif, comme vous le comprendrez dans la seconde séquence de ces carnets.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Pascal Duc, bonjour.
Bonjour.
Bonjour mon capitaine.
Je vous en prie, repos.
Vous êtes armateur.
Et vous... armateur, absolument, oui. Dans le transport fluvial de passagers, exactement.
Dans les croisières charentaises.
Absolument, voilà, ça c'est le nom de la société, les croisières charentaises. On navigue donc sur le fleuve Charente.
Ouais. Et vous êtes à l'origine de la mise à l'eau depuis un an d'un bateau qui est, je crois, unique en Europe. C'est un bateau solaire, le Bernard Palissy 3. Alors, Palissy, on va expliquer, nous sommes à Saintes. Bernard Palissy a vécu à Saintes.
C'est ça, il a beaucoup travaillé sur la faïence émaillée, il a été politicien, enfin bon, il a une grosse vie à Saintes, oui.
Ouais. Je vous souhaite un meilleur sort que le sien.
Oui.
Terminé en Bastillé. 6 ans d'attente pour arriver à ce bateau qui n'est plus un prototype, qui est une réalité. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 années?
C'était dans le cadre d'un renouvellement de matériel, puisque j'avais un vieux bateau de 55 ans, diesel. Même s'il était très économique au niveau carburant, ça restait un bateau bruyant, qui fume, enfin un bateau quoi, normal. Et donc, dès 2011, moi quand j'ai repris un peu l'activité, je me suis vite rendu compte qu'il fallait passer à autre chose. C'est-à-dire qu'on est sur le fleuve Charente, alors il porte le nom de fleuve, mais il ressemble plus à un lac. Hein. Il y a 2 km/h de courant maximum. Je me suis dit, on peut pas continuer comme ça au niveau environnemental, au niveau du confort des passagers, au niveau de tout ça. Donc, dès 2012, Ségolène Royal est passée par Saintes. Et nous a annoncé qu'elle avait de l'argent pour le développement des petites structures touristiques. Donc moi, comme je suis une URL, donc on est 2 salariés à l'année 2 en saison, j'ai répondu de suite à sa proposition, donc étude de faisabilité. Donc ça prend vite 6 mois, 1 an et 15 000 euros. Et donc ils m'ont dit, on va vous suivre. Donc 2012, première demande de subvention, 2013, des premiers accords. En même temps, donc, on demande au département, à la région, à l'Europe. Et nous voilà donc avec beaucoup de promesses de nos politiques en argent, mais très peu de réalité. Après, on vous dit stop, parce que dans un an, il y a les élections, on ne s'engage plus. Mmh. Ça, c'est départemental. Après, vous tombez sur les municipales. Donc, c'est le chat qui se mord la queue. Et il y a des subventions que s'il y en a d'autres qui suivent. C'est-à-dire que si le département suit, la région suivra, etc.
Oui, bien sûr. Et alors, c'est un bateau de croisière qui peut accueillir 149 passagers, oui, avec un très beau parcours à partir d'avril, parce que la saison va bientôt reprendre, le long de la Charente avec des sites historiques, des zones Natura 2000 à découvrir. Il fait 24,65 m de long, 6,30 m de large. Donc j'ai dit 149 passagers. Le coût, c'est quand même 1 million d'euros.
Hors taxe, ouais.
Hors taxe. Et heureusement, et c'est là le défi que vous avez relevé, Pascal, c'est à 85% conçu dans la région.
Oui, alors ça était un peu aussi mon souhait, parce que on aurait pu économiser à peu près 100 000 ou 150 000 euros si j'avais pris une coque fabriquée en Chine avec des aluminiums qui portent que le nom d'aluminium. Voilà. Je m'étais dit que la région Poitou-Charentes et notre secteur littoral, on avait du savoir-faire et pour la construction de la coque. On a le Roi Sommaire Angoulême qui fait des moteurs électriques. On a des électriciens bateaux. On a voilà. Et donc on a réussi à faire, alors à 80-85%. Il n'y a que les batteries où on aurait pu travailler avec un producteur, sans le nommer, qui est pas très loin non plus, mais qui a pas voulu jouer le jeu de la garantie parce qu'il avait un petit problème de fiabilité. Donc il a fallu que je prenne des batteries Valence. Alors c'est des batteries qui sont américaines, avec la garantie qu'on attendait d'eux. Mmh.
Je précise, des batteries recyclables. Il a 7h30 d'autonomie. La première année a été évidemment un vrai succès. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, avec un petit surcoût de fabrication, Pascal, on peut imaginer un développement d'un parc de bateaux de croisière de cette nature.
Ah, complètement. Mais c'était aussi le challenge, c'était de pouvoir dire à mes confrères, alors pas forcément ceux qui travaillent dans des estuaires où le courant peut être très violent à chaque marée, je pense à l'estuaire de la Garonne ou à Nantes, tout ça, mais dès qu'on a des eaux un peu calmes, il n'y a pas de raison qu'on continue en diesel, quoi. Mmh. C'est faisable autrement. Et moi, propriétaire privé, je leur ai démontré. Et ça bluffe un peu beaucoup d'administrations et tout. Ouais. Mmh,
formidable. 8000 km de croisière annuelle, vous allez en profiter si vous le voulez. Zéro CO2, c'est parfait, c'est silencieux. On profite de la nature, on profite des paysages. Allez voir sur le site, c'est croisière au pluriel, traitdunionpalissy.fr. Vous allez voir l'engin et je pense que vous allez être charmé, surtout s'il y a d'autres armateurs qui sont intéressés avec ce bateau électro-solaire, comme on l'appelle.
Électro-solaire, voilà. C'est-à-dire une partie de batterie qu'on recharge à quai la nuit. Et puis nos panneaux solaires, là, qui aujourd'hui nous chargent tout ce qui est système de démarrage, toute l'électronique de bord, et qui demain, avec des panneaux solaires un peu plus souples qu'on pourra dérouler pendant les pauses, je pense que d'ici 2 ans, on arrivera à recharger une partie de nos batteries de propulsion, nos batteries lithium, absolument.
Merci pour votre témoignage, Pascal.
Eh bien, c'est avec grand plaisir que je vous attends pour un embarquement.
Merci et bon vent, mon capitaine.
Merci beaucoup.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Leur calcul est simple, vous prenez 3 nanas porteuses, c'est elles qui le disent, porteuses un projet, vous ajoutez une équipe de copains, l'addition donne à voir qu'un autre monde est possible. Parmi les 3 nanas, il y a Chloé, correspondante opiniâtre des carnets, et un bourg médiéval qui abrite encore 500 habitants, Saint-Sauvent, et un tiers-lieu rural, la Grande Ourse. Ouvert depuis 9 mois, ce tiers-lieu hybride est régi par 3 objectifs culturels, avec la diffusion de musiques actuelles, sociales, bistrot, café brocante, et économiques, avec des espace de travail partagé. Pour l'instant, la Grande Ourse est associative, mais devrait prochainement prendre le statut de SCOP. Et a priori, le lieu remplit bien son rôle de médiateur entre des personnes qui ne sont pas censées se croiser dans la vie. Ça peut être l'habitant de la campagne qui cherche à sortir de l'isolement, le web développeur qui vient peaufiner son projet professionnel, ou le musicien qui casse les oreilles à force de ne pas être entendu. Enfin, je dis ça affectueusement, évidemment. Il y a un lien que vous allez trouver avec la Grande Ourse de Saint-Sauvent, nos pages d'émission. Xavier San Miguel, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Xavier, vous êtes cofondateur et grand ordonnateur de jours de jazz à Foura. Depuis quelque temps, il y a un site, un lien, et on va découvrir que l'histoire de ce bourg, sur cette presqu'île, 4000 habitants, à Foura-les-Bains, comme on dit, est très liée au jazz. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le jazz aborde la presqu'île ?
Alors, je ne sais pas si c'est le climat, si c'est l'environnement, mais il y a une grande concentration de gens branchés art et culture et musique, et le jazz est arrivé ici par un certain nombre de musiciens avec la tradition, vous savez, du sud-ouest, c'est-à-dire qu'on joue dans la rue et on se retrouve. Et donc l'été, il y a toujours eu du jazz dans la rue à Foura, et encore aujourd'hui, des musiciens amateurs se posent dans un coin et animent la rue. Et l'hiver, en revanche, comme il fait pas beau, il n'y a pas de jazz dans la rue et c'est un peu plus triste et un peu plus morose. Ouais. D'où l'idée de jour de jazz à Foura.
Ouais. C'est amusant quand même l'écart géographique qui est un peu le vôtre, Xavier, si je peux dire, parce que vous parliez du sud-ouest. Il y a quelque chose de gascon, alors, dans Jour de jazz à Foura.
Alors, effectivement, Jour de jazz à Foura, ça veut dire, et si on se rencontrait, et si on faisait un peu de musique ensemble, en faisant quelques plats à grignoter et quelque chose à boire, et retrouvons-nous autour de ça. Comme c'est l'hiver, on utilise des lieux existants pour créer des rencontres, parce que c'est quand même toujours ça l'idée des 27 personnes qui composent le collectif, c'est provoquons à la fois la découverte de pratiques artistiques ou d'artistes, mais aussi, et si nous on essayait, d'écrire, de tâter un petit peu du jazz vocal, ou d'un instrument, ou de prendre des photos, et si on créait un atelier initiation au jazz vocal, ou un atelier d'écriture, et si on proposait à des musiciens amateurs de Foura de se regrouper et de créer un répertoire pour notre prochain événement. Voilà. L'idée, c'est de faire un aller-retour entre la pratique artistique individuelle en amateur, et puis notre côté spectateur, admirateur d'artistes beaucoup plus accomplis.
Bien sûr, non, mais vous préparez les oreilles à cette musique, et ça c'est bien. Auprès des plus jeunes, vous intervenez également ?
Alors, auprès des plus jeunes, ça a été de rencontrer l'école primaire de Foura, et dès la première année, on a fait une sorte de concert pédagogique pour faire découvrir le jazz aux enfants. Ça leur a tellement plu que l'année suivante, on a fait avec tous les enfants, c'est-à-dire il y avait pratiquement 200 enfants par petit groupe, bien évidemment, chaque semaine, des musiciens amateurs et professionnels de jour de jazz allaient les faire chanter. Et à la fin, on a fait deux concerts où les enfants, des musiciens professionnels et une chorale d'une école de musique de Foura ont fait un grand spectacle qui a été rempli. On a fait deux séances, deux fois on a rempli le casino, ça fait 200-300 personnes. Mmh. Et à la fin de la soirée, plein de parents sont venus nous voir en disant « Mais vraiment, hein, on pensait pas que c'était ça le jazz, qu'est-ce que c'était ?»
Ah oui, ouais. Et on s'y perd dans vos programmations parce que, d'ailleurs, l'intitulé du rendez-vous, c'est « Jour au singulier ». Vous devriez le mettre au pluriel parce que il y a des journées au mois de février, il y en a au mois de mars, il y en a au mois de septembre, il y en a au mois d'octobre.
Oui, il y en a le 6 avril. Oui, alors à chaque fois, c'est une journée entière à toutes les formes artistiques qui peuvent approcher le jazz. Et la particularité, c'est que toute la programmation de la journée est gratuite et en accès libre à tout le monde. Et puis le soir, on a un concert payant qui, lui, est à 20 euros. Donc, c'est voilà. Effectivement, là, il y a une barrière par l'argent pour le concert du soir.
Alors, illustration, la prochaine journée, samedi 6 avril, c'est une journée consacrée au saxophone avec, en fin de journée, oui, comme vous venez d'annoncer, un concert, et en particulier celui du quartet de Géraldine Laurent.
Et oui, Géraldine Laurent, Paul Lai, Donald Contomanou, Yoni Zelnik, c'est quand même ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans le jazz français de la nouvelle génération. Et on espère que là aussi, ils vont venir découvrir pour certains ces grands musiciens qui régénèrent à la fois le jazz tout en restant plantés dans des racines. Mais comme c'est une musique d'improvisation, il évolue en permanence. Et il peut partir dans tous les sens.
Effectivement, c'est toujours plein de surprises et c'est le propre de la création. Il y a une page Facebook, un jour de jazz à Foura. Retenez déjà la date du samedi 6 avril. Il y aura aussi des ateliers d'écriture sur le jazz. Ça, c'est original et ça fait partie des inventions de l'association. Merci beaucoup, Xavier.
Merci, Philippe Bertrand. À bientôt.
Comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, débuter jeudi dernier une semaine nationale d'émissions locales. Elle dure jusqu'à demain soir et c'est aussi l'occasion de mieux connaître ces structures qui, au nombre de 6000 en France, dont les 9000 conseillers, reçoivent un public de 16 à 25 ans en quête de formation et d'emploi. La mission locale, c'est un service public territorial d'insertion dont on parle que trop peu alors que son réseau accompagne chaque année 1 300 000 jeunes vers l'emploi et l'autonomie. Le site national, c'est UNML, Union Nationale des Missions Locales.info. Vous allez trouver ce lien à nos pages d'émission.